Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train. Dans cet épisode spécial Rallye des Gazelles, Marine Vigne nous donne ses meilleurs tips pour vivre au mieux cette aventure extraordinaire. De la préparation en amont de la course, aux épreuves dans le désert, en passant par ses conseils de navigation, elle nous partage tout ce qu'il faut savoir pour se laisser tenter et être vraiment prête le jour J. Ça coûte combien de faire le rallye des gazelles ?
Ça coûte quelque chose comme 40 000 euros et beaucoup d'énergie.
Combien de temps avant je m'inscris ?
Bonne année, je pense. 10 mois, quelque chose comme ça. Alors, peut-être que ça a changé aussi avec le temps et que maintenant, il faut s'y prendre encore plus en avance. Je ne sais pas. Nous, on s'est inscrites, il me semble, 10 mois avant.
On peut refuser ton dossier ?
Si tu as les sous, je crois pas.
Comment je fais pour trouver des sponsors ?
Alors ça, c'est le nerf de la guerre, le sponsor. Tu es culotté, tu contactes les médias, parce qu'en fait, il te faut d'abord un média, puisque c'est le média qui fera venir le sponsor, qui permettra donc au sponsor d'avoir un intérêt à te sponsoriser, encore une fois. Et après, je pense qu'il faut aller... aujourd'hui, ça doit être encore plus facile avec les réseaux sociaux parce que cette communication, cette visibilité, elle est plus facile, elle est plus évidente pour tout un chacun. Mais je pense qu'il faut aller vers des marques qui te correspondent, qui te ressemblent et dans lesquelles les marques vont... Elles vont se retrouver dans ta personnalité, ta proposition. Donc nous, on avait Jacques Desange avec qui Carole avait travaillé et Nux, voilà, cosmétique. Donc tu vois, j'étais déjà là-dedans.
Est-ce qu'il faut être bonne en conduite ?
Oui, il faut être bonne en conduite. C'est évidemment qu'il faut être bonne en conduite. Si t'es vraiment, si t'as deux mains gauches, non, ça va être un problème. Si tu cales tous les 5 mètres, t'es pas rendu. Il faut être bonne en conduite, mais surtout, il faut être bonne en navigation.
Ça dure combien de jours ?
Ça dure 7 jours, entiers, plein.
Quelle saison ?
Printemps.
La voiture, je l'achète, je la loue, on me la prête, comment je fais ?
J'imagine qu'il y a plusieurs options. Si tu as la chance d'avoir un très beau 4x4 qui marche bien et que tu n'as pas peur de l'abîmer, tu peux le prendre. Sinon, on te prête une voiture. Tu vas voir un fabricant automobile, un concessionnaire, et tu vois avec lui, toujours dans cet esprit de sponsoring, en fait, si ça l'intéresse, de donner un peu de visibilité à sa marque.
Comment choisir la meilleure coéquipière ?
Alors ça, c'est compliqué. Est-ce qu'il existe une bonne coéquipière ? Je pense que dans l'absolu, c'est une aventure tellement forte que tu ne peux pas ressortir complètement intact. Tu vas forcément avoir des moments hyper joyeux, hyper gais, hyper agréables qui vont te faire des souvenirs à vie et d'autres un peu plus difficiles parce que le fait de vivre pendant une dizaine de jours collé à la même personne, bah même si tu la connais bien, même si c'est ta meilleure amie depuis 40 ans, ses défauts ils vont t'agacer et les petites fautes qu'elle va faire vont t'agacer de la même manière que voilà, les tiens l'agacent. Donc, tu es obligé d'avoir un peu de friction, mais il faut être prête aussi à ça. Ça fait partie de l'aventure et d'ailleurs, ça fait partie des relations humaines en général. Sauf que là, elles sont condensées parce que ce que tu vis est fort. Donc, tout est exacerbé, le bon comme le mauvais.
Faut s'y connaître en mécanique ?
Ça peut s'avérer utile quand même. Tu vois, si tu as un petit souci moteur, de l'ouvrir et de savoir où se trouve, je te dis n'importe quoi, l'huile, le liquide de refroidissement. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on nous a expliquées quand on a eu le stage de formation. Et je vais être très honnête avec toi, 20 ans plus tard, j'ai tout oublié.
D'ailleurs, comment on s'y prépare à ce rallye ?
On s'y prépare, alors physiquement, pas particulièrement. Bon, évidemment, il faut être en forme, on ne va pas se mentir. On l'était, donc on n'a pas eu besoin de préparation particulière. Mais tu passes quand même une grande partie de la journée à courir devant ta voiture. Donc, si tu es physiquement un peu bof, c'est pas l'aventure qu'il te faut, quoi. Il faut être en forme. Il faut avoir une capacité physique assez importante, je pense. De cardio, de résistance, de faut tenir le coup, quoi. C'est très fatigant. Sincèrement, physiquement, je ne sais pas si je serais capable de le refaire aujourd'hui. Mmh. Je veux dire, je vois à quel point je me baisse pour mettre mes chaussettes, je me fais mal au dos. Bon, à 30 ans, ce n'était pas le cas, tu vois. Mmh. Là, tu passes ton temps à soulever des trucs, sortir tes malles, tes machins, mettre ta tente. Ça, c'est très physique, c'est très physique. Donc, j'aurais tendance à préconiser aux femmes qui ont envie de le faire de se mettre bien, de se faire une bonne prépa physique pour tenir le coup.
Quoi le plus important sur le rallye ?
C'est le mental, comme dans tout. Même si, comme je viens de l'expliquer, le physique joue beaucoup. C'est le mental, c'est le fait de garder ton calme, c'est le fait de ne pas paniquer, c'est le fait de ne pas te précipiter. Ça, pour le coup, je pense que je serais plus à même de le faire aujourd'hui à 50 ans que quand je l'ai fait à 30 ans. En fait, le physique était plus adapté quand j'en avais 30, mais le mental est plus adapté maintenant que j'en ai 50.
On dort où ?
On dort dans une tente. On dort systématiquement dans sa tente, même quand on arrive à aller au bivouac. Quand tu arrives à rejoindre le bivouac, de toute façon, tu montes ta tente tous les soirs et tu dors dans ta tente.
C'est spartiate ou il y a quand même un peu de confort ?
Dans ta tente ? Tu rigoles, t'as une tente quechua, t'as la place pour deux. C'est au-delà de spartiate, zéro confort. On avait des tout petits matelas qui étaient autogonflables, tu vois. C'est-à-dire que tu ouvrais la valve et ouh, il prenait, je sais pas, il devait faire 1,5 cm d'épaisseur pour pas dormir à même le sol, quoi. Ton sac de couchage, et c'est tout. Donc non, c'est très, très, très spartiate. Et puis tu sais, au début, t'as une petite tenue pour dormir, à la fin. Tu dors limite dans ton pantalon et dans ton t-shirt, hein, soyons très clairs. Le seul truc, c'est que tu laisses les chaussures en dehors de la tente. Mais attention, en vérifiant tous les matins, tu les secoues avant de les remettre, parce qu'on ne sait jamais ce qui a pu rentrer dans ta chaussure pendant la nuit.
Et t'as quoi comme chaussures d'ailleurs pour conduire toute la journée et en même temps courir derrière la voiture ?
J'avais des pattes au gaz. Tu sais, vraiment la chaussure montante qui tient la cheville, mais qui est en toile, c'est pas en cuir, donc... Voilà, enfin, j'allais dire, tu transpires pas. Si, tu transpires quand même de ouf dedans. Parce que vraiment, la journée, tu vois, quand tu es là en train de courir devant ta caisse dans les dunes, ça monte, hein, et il fait 35 degrés. Donc, qu'est-ce que je dis, 35, je sais même pas, il fait peut-être même plus. C'est drôle d'ailleurs, parce qu'il fait très chaud la journée et très froid le soir.
Ouais.
Là, le soir, il fait 4-5, tu te pèles le soir, il te faut les polaires, etc. Mais la journée, il fait une chrana, comme on dit.
Comment tu fais pour l'eau potable ?
Ah ben, t'as des bonbonnes d'eau, t'as des bouteilles, t'as plein de trucs. Enfin, tout ça, c'est dans ton coffre et t'as tout ce qu'il faut et tu pars avec ce qu'il faut pour toute la semaine, je crois.
Pour toute la semaine, ouais. Ok. Tu roules combien de temps par jour ?
Toute la journée. Tu roules du lever du soleil au coucher, sauf si, par miracle, tu tapes ta balise avant le coucher du soleil, ce qui nous est quand même arrivé une ou deux fois. Après, avec la décision à prendre de qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Il fait encore jour. Tiens, il y a encore 2 heures de soleil. Est-ce que j'essaye d'aller taper la balise, la deuxième balise ou la balise du lendemain ou tu vois ? Tu peux aussi faire ça. Mais comme la plupart d'entre nous sont quand même un peu... Enfin, je veux dire, à part certaines équipes qui étaient vraiment des professionnels, les autres, l'idée, c'était aussi de vivre ça de façon un peu confortable, quoi, tu vois, et de pas prendre de risques.
Oui, puis une aventure humaine, ce que tu disais, c'était plus une aventure humaine qu'une compétition avec le
bien
classement.
Sûr,
quoi.
Bien sûr, mais j'ai jamais espéré une seule fois être la première, je te rassure. Je l'ai pas fait pour ça.
Qui répare la voiture si elle a vraiment un gros problème ?
Si ta voiture a vraiment un gros problème technique, tu déclenches l'assistance technique et ils viennent te chercher. Et ils réparent ta voiture. Non, ça, pour le coup, on n'a pas du tout les compétences, hein, franchement.
Et en cas de bobo, il y a des médecins et tout sur le bivouac ?
Bien sûr, il y a des médecins, il y a des ostéos, des kinés. T'es totalement être prise en charge s'il se passe quoi que ce soit.
Et si on se perd, il se passe quoi ? Si on se perd vraiment ?
Bah, t'es dans la merde. écoute, pour le coup, je peux vraiment t'en parler. Pour nous être perdus vraiment et pour avoir galéré à être retrouvés, t'attends, mais à un moment, on vient te chercher. Donc, le truc, c'est que nous, on a un peu paniqué. Bon, la moralité, c'est que ça peut prendre un peu de temps, mais il ne faut pas paniquer. Voilà.
J'emmène quoi dans ma valise ?
Alors, t'emmènes, franchement, c'est peut-être ma valise la plus light de l'univers. Tu emmènes un t-shirt par jour, parce que par contre, tous les jours, ton t-shirt, tu le tords hein, et tu le jettes. Enfin, t'emmènes des treillis. Faut être couverte, en fait, parce que comme tu prends beaucoup le soleil, c'est bien, nous on avait des manches courtes, mais en fait c'est mieux d'avoir des manches longues, ça t'évite de te tartiner de crème, parce que quand t'es pleine de sable, devoir te mettre l'écran total, c'est vraiment pas un kiff. Donc des vêtements légers, couvrants. J'aurais tendance à dire un treillis, tu vois, dans une matière assez, assez légère, et des t-shirts, pareil, légers, fins et manches longues.
Est-ce que tu peux parler à tes proches pendant la course ?
Non, tu es coupée de tout pendant la course. Il s'avère que nous, on a eu cette chance, mais bon, c'était aussi pour nous rebooster un peu parce qu'on était au bout de notre vie, de pouvoir, au milieu de parcours, suite à notre perte, là, donc, on a eu la chance de pouvoir appeler notre famille, mais c'est, normalement, ça n'arrive pas, en fait. Pendant une semaine, tu ne parles à personne. Mais bon franchement, c'est parce que les filles étaient petites, tu vois. Aujourd'hui, ça ne me poserait aucun problème de ne pas les appeler pendant une semaine.
Si c'était à refaire, tu changerais quoi ?
Déjà, comme j'ai eu la chance de l'avoir déjà fait, je pense que je partirais avec l'expérience, tu vois. Et je bosserais comme une dingue cette histoire de navigation. Mais comme une dingue. C'est-à-dire que là, je l'ai bossé, j'ai compris, mais je m'y préparerais, mais comme ma fille se prépare en prépa, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire comme une dingue pour que le truc, ça soit, mais d'une évidence. Parce que franchement, si tu maîtrises ce truc, c'est que du kiff, quoi. C'est que du kiff. Le pays est magnifique, c'est un très très beau pays, le Maroc. Ce désert, même si c'est un désert de cailloux, il est beau, je veux dire, partout où tu poses les yeux, tu te dis, mais waouh, ça existe, ça, si près d'ici ? Je pense que je serais plus dans le kiff, en fait. Donc, plus de préparation, meilleure préparation égale plus de kiff sur place.
Tu voudrais repartir ?
Ça me ferait marrer, ouais, j'aimerais bien le refaire. Franchement, j'aimerais bien le refaire. Mais maintenant, ça fait partie des choses que j'ai un petit peu analysées aussi. On passe toutes nos vacances un peu comme ça maintenant avec mon mari et nos enfants. C'est nos petites aventures à nous, tu vois. Mais l'idée de vivre comme ça dans une voiture dans laquelle tu as toute ta vie, je trouve que c'est très sympa en fait. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir des chambres incroyables, des suites avec plein de luxe et tout. Mais d'avoir mon petit luxe à moi, mes petites affaires, mes petits trucs que j'aime avoir dans un espace réduit avec les gens que j'aime et aller là où j'ai envie d'aller. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est la liberté ce truc, c'est de pouvoir te déplacer. Du coup, ça m'a donné le goût des road trips, tu vois, et de faire des voyages en mode road trip pour découvrir des choses qu'on ne peut pas découvrir si tu embrasses pas le truc comme ça en bougeant tous les jours. Voilà, c'est un peu l'antithèse des vacances chill, les fesses dans le transat. Mais je trouve que tu repars de là beaucoup plus riche, avec beaucoup plus de souvenirs. Et c'est pas une autre façon d'appréhender les choses qui t'arrivent après dans la vie.